Yvan Jablonka est historien, éditeur et écrivain. Il a signé de nombreux ouvrages dont les thématiques sont fort diverses. Ainsi, il y a eu, parmi d'autres, « Les vérités inavouables de Jean Genet » en 2004, « Enfants en exil, transfert de pupilles réunionnais en métropole » en 2007, « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu », une enquête en 2012, « Nouvelles perspectives sur la Shoah » en 2013, « Laetitia ou la fin des hommes » en 2016, une biographie-enquête consacrée à Laetitia qui fut assassinée à l'âge de 18 ans. Les livres d'Yvan Jablonka sont guidés par le principe de plaisir, c'est lui qui le dit. Et c'est probablement pour cela qu'ils ont leur propre identité, une particularité bien à eux. Son dernier livre, Goldman, ne déroge pas à la règle. On y retrouve le style Jablonka, qui aime marier les histoires. La première est le portrait d'un chanteur, Jean-Jacques Goldman, un monstre sacré, écrit-il, qui a composé près de 300 chansons, vendu plus de 30 millions de disques, fait des tournées géantes. Un homme d'une modestie rare, généreux, devenu une institution. La deuxième histoire est son autoportrait, car l'auteur se regarde en Goldman comme dans un miroir. Enfin, la troisième histoire est la peinture d'une époque, les années 1970 à 2010, à travers sa société, ses mouvements politiques, ses médias, ses musiques. Mais revenons à Goldman. Quel parcours que celui de cet homme, dont l'enfance en banlieue parisienne, à Montrouge exactement, fut à la fois banale et exceptionnelle. Lui qui connut un succès foudroyant à l'âge de 30 ans et qui, de par ses qualités, sa philosophie positive, son humilité, sa solidarité avec les vaincus, son immense besoin de solitude, continue de fasciner et dont la popularité, c'est incroyable alors qu'il a disparu des radars depuis 20 ans, reste au beau fixe. Bonjour Yvan Jablonka et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci à vous.
Alors Jean-Jacques Goldman naît en 1951. Parlez-nous de ses parents et de ses frères et sœurs.
L'histoire de la famille Goldman est une histoire d'amour avec la France qui commence il y a à peu près un siècle, puisque le père Goldman arrive de sa Pologne natale, qu'il a fui parce qu'elle était antisémite et misérable, et il arrive en France dans les années 20, et quant à la mère Goldman, elle, enfin Ruth, la future maman de Jean-Jacques, elle arrive en France dans les années 30, elle vient d'une famille juive allemande et elle a fui l'Allemagne parce que celle-ci était dominée par le nazisme. Le couple se forme au lendemain de la guerre et de ce couple, de cet amour, naîtront trois enfants. Une sœur aînée, Jean-Jacques, donc né en 1951, et son petit frère Robert, qui sera aussi son producteur. Dans la fratrie, il y a aussi un demi-frère, Pierre Goldman, qui partage avec Jean-Jacques le même père et puis aussi bien sûr le patronyme. Et Pierre Goldman, lui, aura un autre destin beaucoup plus chaotique. Si j'ai dit que c'était une histoire d'amour avec la France, c'est parce que les deux parents ont fui des régimes fascistes, totalitaires, antisémites, pour arriver dans un pays qu'ils découvrent comme un pays en paix, riche, tolérant, la France. Et cette gratitude pour leur pays d'accueil se transmettra à tous leurs enfants.
Donc la famille de Jean-Jacques Goldman est juive, pas pratiquante, mais les enfants sont élevés dans la conscience extrêmement forte d'être juifs. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous parlez d'ailleurs d'un judaïsme de la joie.
Pour beaucoup de Français non-juifs, le judaïsme n'est qu'une religion. Et en revanche, pour beaucoup de juifs ashkénazes qui viennent de l'Europe de l'Est, comme moi par exemple, le judaïsme est tout sauf une religion. C'est plutôt une culture, une manière d'être, un état d'esprit, peut-être aussi un peu de la cuisine et de l'humour. Donc, chez les Goldman, il y a une judéité très profonde, la conscience de la conscience des origines, mais ça se traduit pas par une religion. Et de fait, je ne crois pas que Jean-Jacques Goldman ait jamais porté dans son enfance la kippa ni fait sa bar mitzvah. En revanche, il y a une certaine manière d'être qu'on retrouvera dans de très nombreuses chansons par la suite.
Son demi-frère Pierre Goldman, un intellectuel et militant d'extrême gauche, qui avait 7 ans de plus que Jean-Jacques, qui a évolué dans le banditisme et fait de la prison, est assassiné en 1979. En quoi le parcours hors norme et dramatique de ce grand frère a influencé, a marqué Jean-Jacques Goldman ?
Pierre Goldman est, comme Jean-Jacques, un enfant de la guerre. C'est quelqu'un qui est très touché, peut-être traumatisé par ses origines juives et au-delà, la Shoah et le chaos de la guerre. Et puis ensuite, il choisira d'être un gauchiste dans les années 60, un guérillero, et puis en effet, il dérivera vers le gangstérisme. Je crois que il y a une différence profonde entre les deux demi-frères, même s'ils se sont bien connus et fréquentés, bien sûr. Cette différence, c'est l'attitude vis-à-vis du public. Il y a chez Pierre Goldman une flamboyance et une espèce de fierté d'être ce que l'on est. Et de fait, il a défrayé la chronique dans les années 60 et surtout 70. Alors que Jean-Jacques, lui, est pathologiquement discret, d'une humilité absolue, et il fuit les foules, il fuit même le succès d'une certaine manière, non seulement aujourd'hui, ça tout le monde le sait, mais même dès les années 80 et 90. Et puis il y a une deuxième différence très profonde entre les deux demi-frères, c'est vis-à-vis de la politique. Pierre Goldman, lui, est un révolté, un insoumis, presque un révolutionnaire professionnel, alors que Jean-Jacques, lui, est un adepte de la politique entre gris clair et gris foncé, je le cite bien sûr, c'est-à-dire qu'il fait l'éloge de la modération, de la nuance. Il invente une gauche pragmatique qui est en total désaccord avec la violence révolutionnaire qui est antidémocratique. Jean-Jacques Goldman, lui, c'est un des symboles de la social-démocratie et aussi de la République sociale à la française.
Qu'est-ce qui vous rapproche de Jean-Jacques Goldman, puisque vous écrivez que vous avez l'impression de le connaître sans l'avoir jamais croisé ?
J'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. D'abord, en tant qu'historien, j'étais fasciné par la place unique que Jean-Jacques Goldman occupe dans l'histoire culturelle, l'histoire politique française. Et d'une certaine manière, cette hyperstar est devenue un mythe de son vivant. Et pour un historien, là, il y a quelque chose de fascinant, quoi. Comment expliquer cette légende Goldman, qui n'a rien à voir avec le parcours d'artistes, d'autres artistes du même calibre. C'est-à-dire qu'il y a Sardou, Johnny, Renaud, des artistes d'immenses talents, mais rien à voir avec le prestige, l'aura, la respectabilité de Jean-Jacques Goldman. Pourquoi je me suis intéressé à lui, c'est aussi parce que d'une certaine manière, il m'a permis de répondre à des questions qui étaient confusément les miennes quand j'étais jeune adulte. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai découvert Goldman, non pas adolescent, mais bien plus tard, jeune adulte. Et ce retard à l'allumage s'explique par le fait que, d'une certaine manière, je ressemblais trop à Goldman. Alors, pourquoi cet effet de miroir ? Il y a d'abord le parcours d'intégration familiale. Je viens exactement de la même famille que les Goldman. Judéité, Pologne, fuite de l'antisémitisme, guerre, je le dis par mots-clés. Hein. Et puis, il y a aussi les engagements de gauche chez les Goldman, qui sont assez proches de ce qui s'est passé dans ma famille et de ce que j'ai connu moi-même comme adulte. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la masculinité que Jean-Jacques Goldman incarne. Mes derniers livres, ils portent sur la masculinité, sur ma garçonnité, sur comment les hommes peuvent être justes. Et il y a chez Jean-Jacques Goldman une masculinité dissidente, illégitime, en totale rupture avec les démonstrations viriles de la scène rock. Et ça m'a intéressé aussi de comprendre comment cet homme pouvait représenter une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité qui se voit dans des chansons comme « Doux » ou comme « Veillez tard » qui sont des chansons pleines de tendresse mais aussi d'angoisse. Et là, il n'y a pas beaucoup de rockers qui s'expriment de cette manière.
Quelle est votre chanson préférée de Goldman ?
C'est une question trop cruelle, madame. C'est pas possible de me demander une question comme ça. Alors, je vais vous répondre quand même, mais je vais un peu botter en touche. Je vais vous répondre sur un ensemble de chansons. Moi, pour moi, la famille de chansons que je préfère, ce sont les chansons de l'exil, de l'arrachement au confort, de la mise en route, comme de même que l'Éternel, dans la Genèse, a commandé à Abraham de quitter la maison de son père pour partir. Donc il y a une espèce de départ intransitif chez Goldman qu'on retrouve donc dans des chefs-d'œuvre comme « Long is the Road »,« Là-bas »,« On ira », une chanson tout à fait oubliée qui s'appelle « Brouillard », qui est de même tonalité. Et ça, pour moi, c'est on est dans au cœur du goldmanisme, le fait de s'arracher à son confort pour partir parce que l'important, c'est d'aller vers un continent libre sans grillage.
Goldman a toujours été proche des gens fragiles, des modestes, des vaincus. Est-ce que ce trait de caractère vous touche, Yvan Jablonka ?
Nécessairement, c'est quelque chose qui me touche en tant qu'historien, en tant qu'homme de gauche, en tant que petit-fils de déporté, bien sûr. Et Jean-Jacques Goldman n'a pas eu besoin de se forcer beaucoup. Quand il parle de cette armée de simples gens, quand il parle des humbles, des petits, ben il pense tout simplement à sa famille, à ses parents qui étaient... qui avait un magasin de sport à Montrouge. Et il sait très bien qu'il est de ces gens-là. Il parle des siens. Et il le fait avec une simplicité, je pense, qui a touché énormément de Français, puisque beaucoup de Français sont soit artisans, commerçants, ouvriers. Et ceux qui ne le sont pas ont très souvent des parents, des grands-parents qui l'étaient. Et je pense que là, on touche à une des causes profondes de sa popularité.
Il y a un snobisme de rejet des chansons à l'égard de Goldman, écrivez-vous. Vous pensez que c'est toujours le cas ?
Non. Dans mon livre, j'ai essayé de comprendre pourquoi et comment Goldman a été méprisé par la presse nationale et plus particulièrement la presse intellectuelle de gauche dans les années 80 et 90 et ce qu'on lui reprochait, entre guillemets. On lui reprochait son succès, tout simplement. On lui reprochait d'être trop mou, pas assez rebelle, trop peu viril, trop aimé des filles. Bref, il y avait un mélange de snobisme, de misogynie dans les critiques très virulentes qu'il a essuyées dans les années 80. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, non seulement Goldman est mainstream, ce qu'il était déjà il y a 40 ans, mais encore il est devenu légitime. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Parce que la légitimité, ça veut dire que ce n'est plus, entre guillemets, honteux d'aimer Goldman. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça que moi, historien, prof de fac, etc., je me suis permis d'écrire un livre sur Goldman. Je pense qu'un livre comme ça, un livre d'histoire et de sociologie sur Goldman, aurait été tout simplement impossible il y a encore 20 ans. Donc, Jean-Jacques Goldman est devenu légitime et ça nous dit des choses sur ce que j'appellerais le modèle culturel omnivore qui est le nôtre aujourd'hui. Pour le dire en termes simples, aujourd'hui, on peut à la fois lire du Victor Hugo et du Stephen King, regarder du Godard et Plus belle la vie, et ça dérange personne. On mange de tout, si vous me permettez cette expression. Et donc, Jean-Jacques Goldman, il a toujours été écouté, admiré par les adolescentes et les jeunes gens de milieux populaires ou de classe moyenne. Mais aujourd'hui, c'est même jusqu'aux élites qui trouvent beaucoup de mérite à Goldman. Et il y a eu un parcours parallèle, c'est Mylène Farmer. Mylène Farmer est en fait un petit peu l'équivalent féminin de Jean-Jacques Goldman. Elle a eu le même parcours depuis les années 80, le même génie du pop-rock, le même goût du mystère, la même aura, le même succès. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, Jean-Jacques Goldman et Mylène Farmer sont les grands-parents spirituels de tant d'artistes, garçons et filles, qui ont un talent fou et que tout le monde écoute. Je crois que le pop-rock, qui a tellement influencé les artistes d'aujourd'hui, le pop-rock a été inventé par des artistes comme eux.
Goldman possède une vraie conscience citoyenne qu'il délivre dans les paroles de ses chansons, mais aussi en s'investissant des années durant dans les Restos du Cœur. Est-ce que son retrait de la scène médiatique a aussi signé son retrait dans les causes qu'il animait jusque-là ?
Nécessairement. Disons que depuis 6 ou 7 ans, Goldman est vraiment complètement retiré de la vie publique. En quelque sorte, il a volontairement disparu. Heureusement, il est bel et bien vivant. Mais enfin, pour ce qui est du personnage public, il faut vraiment un livre comme le mien pour le faire sortir de son silence. Mais il y a eu quand même un petit décalage dans son retrait, parce que son dernier concert date de décembre 2002, et ensuite, pendant au moins 12 ou 13 ans, il est resté l'âme, le patron des Enfoirés. Et ensuite, il a fallu une polémique autour d'une chanson « Toute la vie » en 2015 pour que véritablement, il démissionne et que là, on ne le voit plus.
En quoi Goldman est entré dans son époque à contre-courant ?
Goldman est un enfant de son époque. On le voit quand on analyse les structures socio-économiques de son succès. La bande FM, les radios libres, des émissions de télé extrêmement populaires comme Champs-Élysées, la popularisation du rock. Donc en ce sens, Jean-Jacques Goldman est l'enfant chéri du top 50 et il est pleinement de son temps. Maintenant, vous avez raison de dire qu'il est entré à reculons dans son époque parce que les années 80 étaient des années fric, en quelque sorte, des années de clinquantes, des années aussi où la gauche mitterrandienne a trahi le peuple qu'il avait porté au pouvoir. Et ça, Goldman est en désaccord complet avec ces tendances lourdes des années 80. C'est un homme extrêmement discret, qui certes est très fortuné, mais qui n'a jamais mis son argent sur le devant de la scène, qui ne s'en est jamais vanté, qui ne s'est jamais pris pour un VIP. Et par ailleurs, en tant qu'homme de gauche, il s'est toujours flatté de ne jamais avoir voté pour Mitterrand.
Donc c'est pour ça aussi que vous écrivez « Il avait tout pour rester anonyme ».
Oui, je pense que Jean-Jacques Goldman rêvait un fantasme qui est le fantasme d'une star anonyme, d'un chanteur connu, d'un chanteur à succès, mais qui ne serait pas connu. Et on voit bien dans cette formule que c'est une contradiction totale. Ça n'existe pas, en fait. Un chanteur à succès qui n'est pas connu, ça n'existe pas, tout simplement parce que depuis le XVIIIe siècle, il y a une association très intime entre le succès commercial et la notoriété publique. Et Goldman en a été le bénéficiaire, mais surtout, de son point de vue, la victime.
À partir de quand Goldman a l'impression de ne plus être à sa place ?
Je pense qu'à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000, il commence à sentir que le goldmanisme, c'est-à-dire les valeurs qu'il a portées, sont en déclin. On le voit dans les nouveaux régimes de visibilité en lien avec Internet. On le voit aussi avec le déclin de la social-démocratie. Par exemple, ce n'est pas un hasard si deux héros de la social-démocratie à la française se retirent tous les deux en 2002. Lionel Jospin, après l'élection présidentielle catastrophique dont on se souvient encore, et Jean-Jacques Goldman. Donc ces deux porte-paroles de cette gauche libérale, de cette gauche pragmatique, se sont retirés la même année, à quelques mois près. Alors il n'y a sans doute pas un rapport de cause à effet naturellement, mais on voit bien qu'une page est en train de se tourner. Et au même moment, Jean-Jacques Goldman publie avec un philosophe un livre dans lequel il dit en souriant, mais de toute façon, je suis en train de devenir réac, puisque il évoque le besoin d'autorité, il exprime son mépris pour le rap. Et il le dit en souriant, de même que 20 ans plus tôt, il se disait démodé. Donc, on ne sait pas très bien s'il se moque de lui, de nous, ou s'il est tout à fait sérieux. Mais dans ce livre, il le dit, hein, je suis en train de devenir réac. Et pour toutes ces raisons, il a choisi de se retirer peu à peu, ce qui fait que Ce qu'on analyse souvent comme un choix personnel, il s'est remarié, il a envie de s'occuper de ses trois filles, c'est vrai, mais c'est beaucoup trop restrictif comme explication.
Alors dans votre livre, vous ne parlez pas du tout de ses enfants. Pourquoi ?
Je parle un petit peu de ses enfants, mais pour ce qui est de leur figure publique. Je parle de Michael, qui est devenu un producteur et le directeur de la Star Academy, comme chacun sait. Je parle de Caroline, qui est devenue une psychologue pour enfants de talent, avec des positions plus ou moins controversées qui lui appartiennent, mais qui sont intéressantes. Donc, je parle d'eux, bien sûr, en tant qu'ils appartiennent à une saga Goldman. Et évidemment que ça fait partie de l'histoire. En revanche, je ne l'aurais pas écrit. Parce que je pense qu'il faut respecter le choix de Jean-Jacques Goldman d'avoir une vie privée complètement anonyme. Et moi, je fais la différence entre Jean-Jacques, Caroline, Michael d'un côté et de l'autre, Goldman. Les premiers, ils ont leur vie personnelle et moi, j'ai pas du tout envie de les embêter. C'est des gens qui ont fait des choix qui sont les leurs et moi, je suis pas un paparazzi. En revanche, Goldman, ça fait partie de notre histoire. Et ça, c'est pas Jean-Jacques qui pourra enlever de notre histoire l'émotion que Goldman nous a apportée. Le bonheur, le plaisir, la joie, l'amitié, la tendresse. Et mon livre, c'est aussi une réflexion sur ces années, ce que j'appelle ces années Goldman. On voit bien que Goldman est devenu à la fois un monument du patrimoine collectif et un facteur de joie, de bonheur. Et mon livre était absolument nécessaire à cet égard.
Alors Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs, est sorti de son silence pour dire son mécontentement après la publication de votre livre. Tout de même, Yvan Jablonka, vous n'avez pas été un peu déçu par sa réaction ? Vous n'espériez pas de lui une marque de reconnaissance, un geste de sympathie ? Non ?
Un historien ne raisonne pas comme ça. Moi, je suis habitué à travailler sur les disparus. Laetitia, mes grands-parents, figurez-vous, je ne les ai pas rencontrés parce qu'ils ont été tués avant que je m'intéresse à eux. Jean-Jacques Goldman, Dieu merci, est bel et bien vivant, mais c'est un disparu. Et l'absence de Goldman n'est pas un problème, c'est le cœur même de mon livre. Mon livre parle d'une disparition et d'une présence. C'est pour ça que pour lui, je parle d'omniabsence. Goldman est un omniabsent. Alors bon, maintenant sa réaction, elle est ce qu'elle est. Elle ne m'a pas surpris parce que je savais très bien quelle était sa position. Et par ailleurs, quand je lui ai écrit pour lui demander d'avoir accès à certaines de ses archives, j'ai pas eu de réponse. Donc je me doutais bien que je me doutais bien de son attitude. Mais ce qui est intéressant dans sa réaction, c'est qu'elle confirme l'intuition que j'ai eue, qu'il est dans ce fantasme de la star anonyme, du mythe vivant, mais qui n'intéresserait pas les historiens ou les sociologues. Et ça, on voit bien la contradiction totale. Et puis, plus généralement, je crois que un historien n'a pas à demander l'autorisation à quiconque. Un historien, il travaille sur le passé, sur le présent, en l'occurrence sur nos années Goldman. Et un historien s'intéresse à ce que nous avons vécu et à ce qui nous est arrivé. Et je crois que des millions de Français seront d'accord avec cette idée que Goldman nous est arrivé. Et au-delà de ces méga-tubes que tout le monde connaît, chantonne, fredonne, il y a aussi le goldmanisme. Et mon livre, c'est à la fois une réflexion sur de la pop culture, le rock, la chanson, et sur aussi toute une configuration politique qui a permis Jean-Jacques Goldman.
Merci Yvan Jablonka. Vous voulez bien nous lire un extrait ?
Avec plaisir, c'est pas mon métier, mais je le ferai à votre demande.
Merci.
Goldman vit tellement retiré que la plus infime de ses manifestations, sa descente parmi nous, donne lieu à des dizaines d'articles dans la presse. Ainsi, en 2022, lorsque plusieurs élèves reçoivent une carte postale de Jean-Jacques Goldman, ou que Jean-Jacques Goldman a goûté aux saveurs d'un restaurant à Béziers, ses efforts pour rabaisser sa valeur symbolique ont fini par l'accroître. Dans la démence des réseaux sociaux, son invisibilité le rend étrangement visible. À force d'absence et parce que le vide a sa fécondité propre, les trous noirs leur incandescence, Goldman est devenu un mythe.
Alors, nous allons passer au questionnaire secret d'écriture. Yvan Jablonka, votre mot préféré ?
Latitude. Est-ce qu'il faut que je m'explique ?
Je veux bien.
J'aime bien ce mot. C'est un mot que je trouve très poétique, qui fait voyager dans le temps, dans l'espace, dans la langue. C'est rare, des phrases avec le mot latitude. Et moi, je vois des fuseaux horaires, la Terre qui tourne. J'aime bien ce mot.
Celui que vous détestez ?
Je déteste qu'on emploie le mot « tuerie » pour parler de la nourriture. C'est une expression que j'ai souvent entendue. On est allé dans ce restaurant, c'était une tuerie. J'ai fait des pancakes, c'était une tuerie. Je déteste cette expression parce que moi, en tant qu'historien, j'emploie ce mot pour des périodes beaucoup plus tragiques.
Votre dernière lecture ?
J'ai lu « Triste tigre » de Neige Sino et ça a été un choc intellectuel, un bouleversement littéraire. Je trouve que c'est un très grand livre. Et au moment où je parle, fin septembre, je parie qu'elle aura un prix d'automne.
Votre prochaine lecture ?
J'aimerais bien lire « Flush » de Virginia Woolf, qui parle d'un chien. Mais je crois que je vais surtout devoir relire les épreuves de mon prochain livre.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
Tout le temps. Enfin, tout le temps. Quand j'ai un livre en train, j'écris tout le temps. Je peux écrire 12 heures par jour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Pour dire des choses vraies.
Où écrivez-vous ?
Partout. J'écris chez moi, j'écris au café, j'écris à la Bibliothèque nationale de France. J'écris même à la piscine, figurez-vous, parce que je nage tous les dimanches. Et donc, quand je fais du crawl, j'écris dans ma tête.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez, et si oui, laquelle ?
Eh bien, figurez-vous que pour ce livre, j'ai écouté du Jean-Jacques Goldman. Quelle chance, hein, vous imaginez ? Mon boulot, c'est d'écrire un livre sur Goldman et d'écouter du Goldman toute la journée. Vous imaginez ça ? Il y en a beaucoup qui rêveraient de faire la même chose.
Luttez-vous contre la page blanche ? Et si oui, comment ?
Non, j'ai jamais eu ce problème. J'ai pas de difficulté pour écrire. Écrire, pour moi, est un plaisir. Et d'ailleurs, je comprends pas très bien ceux qui disent « Pour moi, c'est très douloureux d'écrire. Ben, » ils ont qu'à faire autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Je me défends contre le narcissisme. Je crois que l'histoire et la sociologie sont les meilleurs antidotes au narcissisme, c'est-à-dire au « moi, moi, moi » et aussi à ce que j'appellerais la religion de l'unique. Croire qu'on est unique en notre espèce. Et quand on fait de l'histoire et de la sociologie, qui renvoient à des périodes, à des groupes, à des collectifs, à des institutions, eh bien on comprend que nous sommes tous tissés de la même étoffe et que nous appartenons à ces mêmes collectifs qui nous ont façonnés. Et c'est ce que j'ai voulu montrer pour Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman appartient à son époque à travers une génération, un milieu social, une politisation, une spécialisation musicale. Et je crois que là, on est au cœur de la démarche historienne et sociologique, fuir l'individuel pour comprendre le collectif.
Je peux vous demander quel est le sujet de votre prochain livre ?
Mon prochain livre, c'est un recueil d'articles. C'est des articles qui sont sortis dans les années 2010, mais qui sont très importants pour moi parce qu'ils ont une tonalité méthodologique, historiographique. J'essaie d'expliquer les relations entre littérature et sciences sociales. Et donc, en quelque sorte, j'essaie d'expliquer ce que j'ai voulu faire. Parfois, je fais et parfois, j'explique ce que j'ai fait.
Merci Yvan Jablonka d'avoir participé à Secrets d'écriture. Votre livre Goldman est publié dans la collection La Librairie du 21e siècle aux éditions Seuil.
Merci à vous.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À très bientôt.